Maribine.
Le magazine qui explore,
qui voyage, qui découvre.
Cet été, le fonds Hélène et Édouard Leclerc s'intéresse au cabinet de curiosité. Véritable caverne d'Ali Baba, il faisait la fierté des princes et des érudits du 19e siècle. Sont réunis à Landerneau toutes sortes d'objets improbables issus de plusieurs collections françaises. Laurent Lebon, commissaire de l'exposition, nous a guidés le long de ce parcours atypique.
Cette année, le fonds a choisi une option un petit peu autre que le monde monographique. C'est un aspect thématique de la programmation, avec à la manœuvre, j'allais dire, une quinzaine de regardeurs, de co-commissaires, qui, avec le concours de Patrick Moriès et de votre serviteur, ont tenté de créer un moment un peu différent autour de ce sujet que sont les cabinets de curiosité, mais qui est aussi peut-être une manière de questionner ce qu'est une collection, ce qu'est un musée, quel sens ça a de faire une exposition, et qui invite à butiner. Et à partir de là, donc, on vous invite à pénétrer dans un univers qui, je serais tenté de dire, j'espère qu'à la fin vous en serez convaincu, fait comme un méta-cabinet de curiosité, c'est-à-dire qu'au fond, le cabinet de curiosité que vous allez découvrir est constitué de ces 15 cabinets de curiosité, avec à chaque fois une proposition, un projet différent. Donc à la fois une unité, mais je serais tenté de dire une unité dans la diversité. Voilà. Alors comment commencer une exposition sur le cabinet de curiosité? Quand on a réfléchi au projet, on a évidemment souhaité trouver un parti pris, parce qu'on ne pouvait pas embrasser le monde, même si on tente de dire le monde dans cette aventure. Donc aujourd'hui, je crois qu'on est tous soucieux, et vous au premier chef, de développement durable. Et donc on a voulu nous limiter à la France. Je pensais que ça avait du sens de ne pas dépenser du kérosène du bout du monde, mais d'utiliser les magnifiques moyens du fonds Leclerc pour créer un rassemblement unique, parce que ce que vous allez voir, vous ne le reverrez jamais, le temps d'un été, 1500 œuvres ou objets. C'est une des grandes questions de l'exposition, puisqu'on est tendu entre le monde de la science et le monde de l'art, j'y reviendrai. Et donc, mon projet, c'est mon métier, c'était de montrer des objets vus, mais rarement et souvent jamais vus. Les trois salles qui sont ici forment une sorte de cohérence, comme un triptyque historique inaugural qui met en valeur un petit peu cette histoire des cabinets de curiosité qui va disparaître après cette salle. Et donc, les seules traces que nous avons des cabinets de curiosité, ce sont donc ces gravures qui sont ici imprimées en grand, mais là, vous les avez dans leur format original. Et là, vous avez, par exemple, on a avancé un peu dans le temps, la gravure du cabinet de Sainte-Geneviève, du père du Moulinet, à la fin du XVIIe siècle. Et ici, trois magnifiques ouvrages avec divers objets et éléments que vous allez retrouver dans l'exposition. Le monde des cabinets de curiosité s'oppose parfois un peu rapidement entre le monde naturel et le monde artificiel. Et donc ici, on est plutôt dans la virtuosité artificielle. Vous avez là, en contrepoint de ces objets, qu'on vient de voir du Palazzo Pitti, un extraordinaire ensemble d'horloges automates qui datent de la fin 16e, début 17e, réunis par la galerie Kugel, qui n'avait jamais été exposée en dehors de Paris, avec le petit film qui est au-dessus, qui comprend les objets que vous avez en dessous en mouvement, qui donc montre évidemment la virtuosité extraordinaire de cet ensemble. Là, on est un peu dans ce qu'on peut faire de plus beau dans cette magie du cabinet de curiosité. Je vous présente Gilles Das, qui est le régional de l'étape, mais à tendance nationale, puisqu'il est breton, mais grand conservateur, directeur de la bibliothèque centrale du Muséum national d'histoire naturelle. Et donc à tout seigneur, tout honneur, puisque là, on a une collection de 60 millions d'ouvrages.
Je ne vais pas m'attarder sur des objets en particulier parce qu'il y en a beaucoup, il y en a plus de 150. Vous donnez quand même quelques clés. Ce sont des collections qui viennent de plusieurs des univers, pas forcément les plus attendus. Muséum d'histoire naturelle, on s'attendrait peut-être à voir des animaux empaillés, des oiseaux, des ours, etc. Donc vous en verrez sous une forme assez hybride plus tard chez nos collègues du musée de la chasse et de la nature. Les zones qu'on a explorées ici sont parfois plus rares et c'est généralement des objets qui n'ont jamais été montrés. Donc vous allez voir des insectes qui sont mis vraiment en beauté ici, assemblés d'une manière tout à fait inédite sur laquelle je reviendrai, des minéraux, la collection de minéralogie, des pièces de l'herbier national, donc de la botanique, et ce qu'on appelle dans notre jargon les invertébrés marins. Et donc c'était un peu normal étant en Bretagne et dans le Finistère de travailler sur cette zone qui au passage a été une zone extrêmement importante puisque les collections du muséum se sont en grande partie construites à partir d'expéditions ou de voyages et qu'à un moment donné, elles ont transité par les zones côtières et par les ports. Pour reprendre l'histoire du cabinet de curiosité, le cabinet de curiosité, Laurent l'a dit, c'était un premier assemblage qui combinait un rapport entre l'art et la nature et c'était quelque chose qui était avant tout là pour... je dirais émerveiller, étudier, mais on n'était pas encore dans la classification des choses. On est dans ce qui allait plus tard donner naissance au musée. Le musée va déconstruire le cabinet en ordonnant, en classant. Et pour ça, le muséum, c'est un peu dans son ADN depuis sa fondation et ses origines, qui est de classer les espèces pour pouvoir les étudier. Et donc très rapidement, tous ces ensembles qui pouvaient être répartis d'une manière tout à fait différente dans les premiers cabinets de curiosité se sont trouvés sériés, ordonnés, classés, étudiés scientifiquement. Et du coup, on a finalement procédé à une sorte de déconstruction rétrospective pour revenir aux origines, puisque dans le jardin des plantes, qui s'appelait autrefois le jardin du roi, il y avait un cabinet de curiosité qui s'appelait le cabinet du roi, qui n'existe plus, même si on a un cabinet historique du 18e qui est toujours conservé à la bibliothèque. Et on a finalement essayé de réinterpréter à l'invitation de Laurent ce que pouvait être cette notion de curiosité au 21e siècle. Et pour ce faire, on a utilisé des arbitraires assez simples, des analogies formelles. Donc vous allez voir des objets côte à côte parce qu'ils se ressemblent ou parce qu'ils ont la même couleur, même s'ils proviennent d'espèces qui sont tout à fait différentes. Et en faisant ces assemblages, on pense avoir réinventé un petit peu ce que pouvait être l'émerveillement et la curiosité aujourd'hui dans une exposition, dans une démarche d'art contemporain. Ensuite, on a du coup été confronté à cette tension entre l'art et la science, en fait, et on a dû jongler avec des logiques qui sont un petit peu des logiques qui opposent la rareté et la profusion. Donc ça, c'est une idée importante pour nous aussi par rapport à notre mission de muséum d'histoire naturelle, c'est que vous avez une profusion dans les collections. Laurent a dit les chiffres, 70 millions de spécimens, c'est vraiment beaucoup de choses. Et donc on a voulu opposer ce que vous avez sur les périphéries des deux salles, c'est-à-dire beaucoup de choses qui sont un petit peu comme des témoins de toute la biodiversité historique, et au centre, ordonné pour le coup de manière très linéaire, très classée, très épurée, des choses qui racontent quelque chose, qui illustrent en fait des questions de société. Et c'est vraiment ça la mission du muséum aujourd'hui. C'est aussi un instrument de politique publique qui va conserver beaucoup de choses, mais pour pouvoir, au moment où on en a besoin, et par rapport à une question sur l'environnement, sur la biodiversité, raconter, apporter des preuves, des éléments de science. Et donc typiquement, les minéraux que vous voyez au centre là, ce sont tous les minéraux qui sont utilisés dans un smartphone pour la fabrication d'un smartphone. Et donc, par ce propos, ce qu'on veut aussi sensibiliser, c'est l'exploitation des ressources minérales par rapport à la manière dont on utilise la technologie, qui n'est pas si dématérialisée que ça, finalement. Autre exemple que vous reverrez également de l'autre côté, c'est toute la problématique des pollinisateurs. Et donc, tout le monde est sensibilisé à la question de la disparition des abeilles. Et donc, on a voulu, dans ce centre, poser un certain nombre de ces questions et interpeller aussi le visiteur sur ces questions de société, et pas être seulement dans une démarche esthétique. Mais donc vous voyez cette tension entre un propos scientifique, un propos artistique, on a essayé finalement de l'assumer et de l'incarner.
Voilà, dans l'ADN du fond, il y a bien sûr le dialogue entre patrimoine et art contemporain, avec un focus évidemment plus accentué sur l'art contemporain. Et donc ça nous a intéressé d'intégrer dans cette histoire quelques artistes, mais pas choisis au hasard, mais qui viendraient comme ça dialoguer avec la richesse des collections sur lesquelles sont portés un regard contemporain. Et donc s'imposait dans ce projet évidemment la présence de Théo Mercier, qui est peut-être un des artistes de notre pays qui a le plus réfléchi sur ce sujet, et qui est aussi un artiste qui est complètement entre deux mondes, le monde du théâtre, de la performance, et je crois que cette salle en témoigne, puisqu'on est vraiment dans l'illusion théâtrale, puisque tout est faux, tout est factice. Voilà, ainsi, évidemment, non sans humour, vous avez ces fossiles qui, viennent être transpercés par les étagères, et puis là, vous avez ce grand ensemble très théâtral, tout est faux, comme vous voyez, et il a créé ces grandes tranches minéralogiques qui ne viennent pas des collections de Gildas, hein, du muséum, mais on pourrait croire, mais qui ont été créés spécialement pour l'exposition et qui donnent un peu cet esprit de paysage, de roche un peu paysine, comme on disait, qui évidemment sont un peu fantastiques. On va remonter un petit peu. On va d'abord donner la parole peut-être à Patrick. Dans cette salle, il y a un petit côté un peu ready-made du Champien, puisque c'est un morceau de l'appartement de ce collectionneur inexistant qui apparaît dans ce projet. Et ce collectionneur inexistant, nous l'avons avec nous, c'est Patrick Moriès, le commissaire associé.
Ici, donc, on a transporté un morceau de pièce dont vous avez l'ensemble sur les murs, parce que cette pièce a été représentée d'une part par un graveur qui s'appelle Éric de Mazière, qui est aussi un très grand dessinateur, et d'autre part, de l'autre bout, vous allez voir, par un peintre qui s'appelle Jean-Baptiste Sécheret. C'est des peintres qui ont une cinquantaine, soixantaine d'années, qui ont des collectionneurs extrêmement fervents et qui ont une certaine cote, mais qui sont un peu en marge. Donc vous avez dans le côté cette vue d'ensemble, et au milieu, ce qui fait partie de l'assemblage, ça c'est un meuble de chasse allemand par exemple, mais comme vous voyez c'est un meuble de chasse qui est fait de ramures de serre, et donc évidemment c'est le mélange entre l'utile et le naturel, l'artificiel et le naturel. Sur ce siège est posée une boîte en bronze dorée d'une créatrice qui s'appelle Lynn Vautrin, qui est morte dans les années 80 et qui était une grande créatrice d'objets et de bijoux, qui est morte un peu oubliée et qui maintenant a une cote absolument qui crève les plafonds. Donc, si je vous énumérais tout ça, on n'en finirait pas. Alors, une des caractéristiques de cet espace, c'est que j'ai demandé à des artistes contemporains de créer des pièces spéciales pour l'exposition. Donc, vous avez ici, au milieu, une sorte de concrétion de bronze doré, de cristal de roche, de corail. Et la sculpture, c'est une lanterne sourde, en fait, a été faite par une orfèvre qui s'appelle Martine Gossens. Pourquoi est-elle là ? Parce qu'elle utilise les matériaux qu'on trouvait dans le cabinet de curiosité énormément, c'est-à-dire l'or ou le bronze doré, le cristal de roche, le corail, les éléments minéraux et végétaux mélangés. Et le dernier artiste, c'est quelqu'un qui s'appelle Denis Polge, à qui j'ai demandé de recréer ce qu'on appelait des momies de sirènes. On a cru pendant des siècles qu'on trouvait en Inde du Sud des momies de sirènes échouées sur les rivages. Et en fait, c'était des montages que faisaient les marins qui revenaient de là entre des corps de petits squales et des têtes de singes. Ça donnait du genre d'une créature. Et il y en a trois au muséum qui n'ont pas pu nous prêter. Et donc, j'ai demandé à Denis Poche d'en imaginer. Donc, voilà, vous avez des sirènes en papier mâché et en divers matériaux qu'il a créés spécialement pour l'exposition.
Donc, nous avons une autre star qui nous arrive de Montpellier. Madame Pinaille, qui est donc la grande régisseuse en chef de cette magnifique collection, et je lui cède la parole. On est au centre de l'exposition, il nous fallait l'être humain, et là on a un ensemble de pièces pour célébrer cette humanité tout à fait spectaculaire.
Je trouve que les collections d'anatomie de la faculté de médecine sont des collections prestigieuses et reconnues dans le monde scientifique et de l'histoire de l'art, mais très peu connue du grand public. Ce que vous avez autour de vous, il y a 25 objets qui sont issus des collections de l'Université de Montpellier, mais également des collections qu'on a reçues en don de la faculté de médecine Paris 5 Descartes, qu'on a reçues en don en 2011, qui concernent environ 8000 pièces. Et le fonds montpelliérain détient environ 5600 pièces qui sont exposées dans le conservatoire d'anatomie. Il faut savoir que les collections sont de différents matériaux. Il y a à la fois des pièces naturelles, donc en fluide, de l'ostéologie, des dissections. Puis il y a aussi des pièces artificielles, des moulages anatomiques en plâtre, en cire et des objets en papier mâché. Donc tout ce fonds-là de plus de 13 000 objets est un patrimoine remarquable. Et vous avez une petite sélection ici de pièces de ces collections qui étaient utilisées pour l'enseignement médical au 19e siècle. Vous avez une première section en fait sur donc de la fécondation à la mort. Donc on est là sur la curiosité de l'homme sur son propre corps et son existence. Donc vous voyez ici, vous avez deux panneaux sur la fécondation. donc des panneaux en cire. Vous avez également des pièces qui représentent les fœtus à différents mois. Donc vous voyez que pour un même sujet, on a des pièces de différents matériaux. Donc du papier mâché, une collection de Louis Ozou, et puis la collection Pierre Spitzner avec cette pièce en cire. Vous avez également deux memento mori qui sont des vanités. Une autre vitrine ici qui est sur le corps en morceaux. Donc vous voyez qu'on a des pièces en cire, un cœur, une coupe anatomique en cire. Vous avez également des panneaux pédagogiques sur les maladies des yeux. Et donc vous avez ce panneau-là qui sont en fait des yeux en verre soufflé qui représentent différentes maladies. Et là, des panneaux pédagogiques également sur la maladie des yeux. Donc vous voyez qu'aussi sur une même thématique, on va commencer à représenter à partir de cire ou de verre en fait des pathologies. On va passer à cette vitrine-là, qui est une vitrine sur la tête. Donc vous voyez deux pièces, donc ce sont des crânes réels. Donc un crâne dit à la Beauchesne, donc éclaté, ce qui permet de voir en fait les différentes, l'anatomie en fait d'un crâne avec les différentes os qui le composent. Un crâne phrénologique, donc typique du 19e siècle, issu du conservatoire également, avec toutes les inscriptions qu'il y a dessus. Et je vous invite à regarder en fait les inscriptions. Par exemple, vous connaissez la bosse des maths, avoir la base des maths. Et bien en fait, c'est une expression qui vient de là, c'est-à-dire qu'à l'époque, donc, il y avait ces pseudo-sciences où on comparait en fait les morphotypes des différents crânes de condamnés à mort ou d'intellectuels. Et ensuite, on avait cette cartographie sur le crâne qui permettait de déterminer si la personne était, par exemple, bonne en maths. Il fallait avoir une bosse de ce côté-là parce que c'était marqué mathématiques. Sur l'autre côté, vous avez meurtre. Donc, ils avaient étudié différents crânes de condamnés à mort. Et s'ils avaient remarqué qu'il y avait quelque chose, soit une bosse, soit un creux, et à ce moment-là, si on avait quelque chose sur le crâne, à ce niveau-là, ça voulait dire qu'on était un meurtrier. Donc, on avait commencé à émettre des hypothèses sur la personnalité des gens à partir de leur crâne. Vous avez cette pièce-là, qui est une pièce unique, qui est la pièce la plus ancienne des collections que l'on a, qui date de la fin du XVIIe siècle, qui est une tête anatomique attribuée à Gaetano Zumbo. En fait, il s'agit d'un véritable crâne, donc avec sa mâchoire et ses dents, qui a été surmodelé avec de la cire pour représenter toute la partie du muscle. Et vous avez aussi les yeux qui sont en verre soufflé. Donc c'est une pièce qui est très importante pour nous. On a une collection à part, qui est la collection Pierre Spitzner, donc du musée Forain, qu'il a créé au XIXe siècle, et qui est le musée Forain qui a duré le plus longtemps en Europe, jusque dans les années 60. C'était à l'origine un musée de cirque qui était basé à Paris au pavillon de la Ruche. Donc on a vu en fait la curiosité de l'homme sur sa propre anatomie, la curiosité sur son existence de la fécondation à la mort, mais également la curiosité liée aux malformations, aux personnages difformes. Et cette curiosité-là, elle s'est propagée grâce au musée Forain. Et pour finir, je vais vous parler de la femme à barbe qui fait aussi partie de ces personnages énigmatiques que l'on retrouvait dans les musées Forains. Donc cette pièce-là, elle est assez exceptionnelle. À l'intérieur, c'est un buste qui est constitué de bois et de plâtre. Mais en fait, elle est particulière parce qu'en fait, la peau avec les cheveux et la barbe en fait, sont réels. Sur l'inventaire, on avait juste une phrase, c'était marqué « buste momifié » de Germaine D. Et grâce à ce scanner, on sait qu'en fait, c'est une pièce artificielle à l'intérieur, mais que la peau est véritable.
Voilà, donc, comme je vous le disais, c'est un moment de regardeur. Et donc, dans notre monde muséal, il y a un musée à Paris qui a vraiment mis le cabinet de curiosité au cœur de son projet. C'est le musée de la chasse et de la nature que Claude Dantonèze a dirigé depuis maintenant une dizaine d'années. Et donc Claude est venu nous faire l'amitié de mettre en scène ce cabinet des curiosités un peu extraordinaire. Bon, il y a la dent de narval revue par l'artiste Sinclair Semain, les objets de Jean-Michel Autoniel, tapisseries, tableaux, trophées, qui donnent là, je crois, une atmosphère toute particulière. Alors, Marie-Charlotte est là, et je vous la présente, grande conservatrice star du MUCEM, Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. Et c'est encore une autre atmosphère muséographique.
Alors ici, nous nous trouvons donc dans cette salle du MUCEM, qui est en fait donc héritier du Musée national des arts et traditions populaires, qui était un musée à Paris. qui a été créé en 1937, mais ouvert en 1972 et fermé en 2005. Et ce musée national des arts et traditions populaires a été pensé par un homme qui s'appelle Georges-Henri Rivière. Donc ici, nous évoquons le travail. Il faut savoir que cet homme a été qualifié de magicien des vitrines. Pour les gens de musée, disons, c'est vraiment un père spirituel qui a initié une discipline qui est la muséographie, c'est-à-dire cet art de mettre en espace des objets. Et il l'a fait en particulier sur une catégorie d'objets qu'il a fait donner à voir aussi comme un regardeur, qui est l'art populaire, sachant que son objectif, c'était de dire que il n'y avait plus de cloisonnement des arts, qu'il fallait non pas imaginer les beaux-arts d'un côté et l'art populaire d'un autre, mais essayer de donner à voir cet art comme des chefs-d'œuvre qui sont aussi importants que le reste. Et donc, il s'est attaché avec son équipe à collecter ce patrimoine d'art populaire dans un musée où il voulait donner la parole, comme il le dit, à ceux qui ne l'ont pas. Et donc, derrière chaque objet, c'est aussi des tas de fonds, enfin, c'est des individus, bien évidemment, qui ont créé et utilisé ces objets.
La dernière salle se trouve par ici, mais avant, je vous propose de faire une sorte de triptyque, puisqu'en fait, au fond, c'est trois moments un peu artistiques. Et donc là, on a deux cellules de part et d'autre qui marchent en contrepoint, parce que ce sont deux amis, Antoine à gauche et Jean-Jacques à droite. Donc, je propose de commencer par Antoine, mais c'est le même esprit. Ce sont deux collectionneurs artistes, si je peux me permettre, alors vraiment artistes dans le cas de Jean-Jacques, qui ont là montré un peu un florilège du meilleur de leur collection. Antoine est un des plus grands collectionneurs français. Vous savez qu'il a créé la Maison Rouge. Et pendant 10 ans, en fait, il a fait une programmation qui est comme une sorte de grand cabinet de curiosité, puisqu'il avait défriché des terrains, des champs un petit peu moins fréquentés que les autres. Et donc là, vous l'avez compris, on ne va pas parler de chaque objet, mais c'est évidemment un petit clin d'œil aux animaux taxidermisés qui n'apparaissent pas dans la cellule, comme Gildas nous l'a dit tout à l'heure. On a fait notre propre ménagerie, avec à la fois des artistes très connus. Hein. Ici, vous avez un dessin de Magritte, et vous avez des objets qui ont Meret Oppenheim, des objets qui ont une très grande valeur, et des artistes qu'il a découverts, qu'il a mis en valeur. Il a une grande attraction pour Pascal Bernier. Et on a dans une avant-dernière salle créé un accrochage un peu spectaculaire, où on a, vous vous souvenez que dans le tableau de Domenico Rems, on a comme ça des éléments qui nous rappellent le passage du temps, les vanités. Et donc là, on a eu la chance d'avoir une partie de la collection de Jacques Attali, qui est peut-être la plus belle collection au monde de sabliers, qu'on a accroché un petit peu comme est la vie, c'est-à-dire que le temps s'écoule et se réduit à disparaître en fonction de la hauteur des sabliers. C'est des sabliers de toutes les époques, hein, et de pays différents. Et qui nous amène à la sortie. Mais avant cela, il y a un petit passage à faire dans cette dernière salle. Comme vous l'avez compris, on peut aller dans un sens comme dans un autre, qui est un peu une clé de l'exposition finale, où au fond, on répond à une sorte de contemporanéité, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans le cube blanc, et on a là trois éléments qui dialoguent ensemble. La collection de marteaux du commissaire-priseur François Curiel, qui est montré là pour la première fois et qui est peut-être une des clés possibles, hein, de fin de cette exposition, puisque quel va être le devenir de ces 1500 œuvres, on ne le sait pas, mais peut-être qu'ils trouveront d'autres propriétaires, et évidemment passeront peut-être par le système marchand et donc peut-être aux enchères. Comme un clin d'œil en face, un hommage aux propriétaires des lieux, c'est Michel-Édouard Leclerc, et donc c'est, comme je le disais avec le Domenico Rems à l'entrée, tout est en boîte, et au fond, cette exposition, c'est un peu des ouvertures de boîte, hein, des ouvertures de réserve avec des objets qu'on n'a jamais vus. Et il nous a prêté une petite partie de sa collection de boîtes de sardines, qui dit beaucoup de l'histoire de France et de l'histoire de l'Europe, puisque, au fond, ce sont les mêmes sardines qui vont du Golfe de Guinée à la Bretagne, mais qui sont mises en boîte de manière différente. Et derrière moi, peut-être l'œuvre finale, la touche, avec pour la première fois montré en France, voire en Europe, cette photo tout à fait exceptionnelle, peut-être du plus grand photographe actuel, Andreas Gursky, c'est un photographe allemand. Et donc, quelle est sa, vision du monde, c'est cet entrepôt d'Amazon qui est photographié. Mais en fait, c'est un agencement numérique d'une précision diabolique, puisqu'on arrive à lire le titre de chaque ouvrage, les objets. Et pour moi, c'était un peu conclure l'exposition avec cette vision en disant que finalement, le cabinet de curiosité d'aujourd'hui, avec tout ce qu'il a d'inquiétant et de fascinant, c'est peut-être ici. Voilà. Il y a une dernière cellule, mais qui n'est pas présente ici. C'est l'ouverture exceptionnelle de la chapelle qui a été ouverte et qui était pour moi le début de l'histoire, puisque c'est en voyant la chapelle, qui était donc une église qui est devenue un magasin et qui est redevenue une collection d'objets d'art religieux par Madame Leclerc, qu'au fond, il y avait un cabinet de curiosité, et c'est ça qui m'a donné l'idée de proposer comme projet le cabinet de curiosité.